RMC.
J'ai eu une vision il y a quelque temps, mais je pense que cette année va être la bonne année.
Where is the casque for John?
Quand une porte est entrouverte, il reste à nous de l'entrouvrir grande ouverte.
After Lyon,
Nicolas Jamain.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast After Lyon. À mes côtés cette semaine, Roland Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Et notre correspondant à Lyon, Édouard G. Salut Édouard.
Salut Nico, salut coach, bonjour à tous.
Salut Doudou.
Messieurs, le Rhône a failli déborder ce week-end sous l'effet des torrents de larmes de Jean-Michel Aulas et de ses proches. L'émotion d'un patron au moment de dire adieu à ses supporters, à son stade, à son club. Lyon va-t-il le regretter? Qu'est-ce que l'OL va perdre avec le départ de son boss? Était-il temps de changer d'air? Mais faut-il lancer la suivante avec Laurent Blanc en tant qu'entraîneur? C'est parti pour le podcast After OL. 36 ans donc de présidence, 75 trophées, équipe masculine et féminine confondues. N'ayons pas peur de le dire, l'un des, si ce n'est le plus grand patron du foot français, a été fêté ce week-end par son peuple, et pas uniquement, aussi par une partie du football hexagonal. Qu'est-ce que tu retiens, Edouard, de tous les discours, toutes les images, toi qui avais la chance d'être au Groupama samedi soir?
Une émotion XXL, un stade qui chavire, qui s'enivre, qui veut faire la fête à son président éternel, parce que c'est désormais son surnom à Lyon. Tu as rappelé les trophées, 2380 matchs par exemple. Et puis c'est vrai que c'est le genre de match personnellement que l'on suit avec un œil différent, parce que c'est pour lui 36 ans de l'OL, pour moi c'est 25 ans de mon suivi de l'OL qui aussi s'échappe. Donc ça sera plus comme avant, la narration de la vie de l'OL va être différente. Alors on sait pas comment ça va être la suite, mais voilà, c'était beau. Alors après, on n'oublie pas, parce qu'il faut faire aussi l'inventaire total, on n'oublie pas, je parle professionnellement parlant, que ce fut dur parfois, que ce fut viril, ce fut froid, ce fut tendu. Il a fallu amortir quelques phrases de ci de là, sortir des infos parfois un petit peu touchy. Voilà, ça ne plaisait pas à tout le monde. Il faut faire l'inventaire de tout, mais sur ce moment-là, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions. Et puis j'ai trouvé beaucoup d'élégance, beaucoup de classe, beaucoup de une fête belle du stade avec les banderoles et puis le tour d'honneur. Voilà, c'était à l'image de ces 36 ans et ce que devaient donner tous ceux qui ont suivi l'OL. Je parle des supporters, des joueurs, des anciens, de le monde du foot, en tout cas à Lyon déjà, devait lui donner.
Comment tu as reçu, vu ces images, coach, ce week-end, là, les hommages à Aulas, la tribune, le tifo magnifique également, le discours du président?
Je les ai regardés un petit peu de façon assez bizarre, parce qu'on est obligé de constater que ce que fait ce gars-là, c'est tout simplement exceptionnel, et par les résultats, et par la durée. Parce que durer avec autant de passion et arriver à faire de ce club un club qui a l'image d'un stade que j'appelais, avec toujours mon côté chambreur, le frigidaire, c'était le stade de Lyon. Et quand Aulas prend ce club-là, la première des choses qui a surpris tout le monde, c'est que Lyon n'avait jamais été, depuis que le football existe en France, champion de France, alors que c'est quand même la deuxième ou la troisième plutôt, je crois que c'est ça.
Oui, entre Lyon et Marseille.
Avec Marseille. Et là, ce qu'il a pu faire pour en arriver avec ses installations, ce nouveau stade, qui est encore un autre stade, puisque le stade Gerland était devenu finalement un stade de football uniquement et pas un stade pour l'athlétisme ou pour le vélo, un petit peu comme le stade de Vélodrome de Marseille. Et voir ces résultats en même temps avec Loulou Nicolin, être un petit peu les pionniers du football féminin, et avoir autant de résultats avec autant d'années à sa présence, après le club en bourse, enfin bref, c'est tout simplement exceptionnel. Mais le voir partir avec Apollon Chancha un coup de pied au cul, sincèrement, j'ai du mal à le vivre, j'ai du mal à le digérer.
Comment on a vécu, parce que Edouard, 15 ans avant le premier titre.
C'est ça, 87, premier titre en 2002.
Voilà, il y a la Coupe de la Ligue au bout de 14 ans, mais vous imaginez déjà 36 ans, c'est énorme, mais déjà 15 ans d'un président, à l'époque on disait que c'était le Pouli d'or du foot français, et il nous répondait, tant qu'on peut avoir, là on a déjà l'émotion de Pouli d'or,
la popularité.
Voilà, et par contre, il mettra les trophées derrière. Voilà, donc il a bien fallu cette donnée importante de sa constance et de son opiniâtreté avec ce premier stade privé de France également.
C'est vrai qu'il a réussi à emmener, alors peut-être que moi, c'était à mon époque, j'étais un jeune homme, adolescent même, cette époque-là de domination lyonnaise. On avait le sentiment, coach, je ne sais pas si tu l'as ressenti ainsi, toi qui étais sur les bancs de touche, que c'était le club que tout le monde voulait pousser en France, en Coupe d'Europe notamment. Sympathique, les Juninho, les Mohamedou Diarra, les Michael Essien, les Edmilson. Le mardi soir, le mercredi soir, j'ai l'impression quand même qu'il y avait une union sacrée, ce serait trop fort de le dire comme ça, mais on était un peu admiratif de cette OL-là.
Mais admiratif, oui, mais ça n'empêchait pas que c'était l'équipe à battre, le club à battre, le président à battre. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que la jalousie existe sur cette planète. Donc, rencontrer Lyon, avec en plus un président présent au point que l'on pouvait penser que certains coups de sifflet du côté du club de Lyon étaient souvent favorables à la personnalité de son président. Non, c'était un club qui était obligé de le respecter. Les joueurs, y en avait des bons, même s'ils se débrouillaient aussi. De faire un petit peu des bonnes affaires dans les transferts. Après, nous avons eu un passage, et Doudou pourrait nous dire à quelle année, où là, il y a un point d'interrogation. Parce que le centre de formation de Lyon, je l'ai toujours trouvé performant, avec des éducateurs performants, et il est sorti des joueurs quand même de très très haut niveau. Et à un certain moment, dans la période au LAS, ce centre de formation, on a dit que c'était prévu. Non, je pense que ce n'était pas prévu. Il est tombé du ciel. Il y a eu 4 ou 5 joueurs, dont Benzema, avant qu'il soit transféré au Real Madrid. Donc, les jeunes, pratiquement, ont sauvé, pas au point comme les minots de Marseille, mais ont sauvé quand même le club, qui était un petit peu sur le plan financier mi-figue mi-raisin. Et ça, est-ce que tu te rappelles, Edouard,
oui, bien sûr.
Quelle année? Je ne pourrais pas donner avec précision.
Il y a deux données. Il y a justement, tu parlais de Karim Benzema, mais aussi on peut parler d'Anthony Martial. C'est des ventes qui permettaient, au 30 juin, juste avant la clôture des comptes, d'équilibrer les comptes. Donc ça, c'était de l'argent en pièces sonnantes et trébuchantes. Et ça, chaque année, il y a des joueurs, et certainement cette année, ça va être encore le cas, des joueurs qui bouchent les trous de fin d'année, surtout quand il n'y a pas de Ligue des Champions. Et la deuxième chose, c'est la période, la fin de l'ère avec Claude Puel, et on rentre dans une ère, c'est pas par rapport à Claude Puel, mais c'est qu'on rentre dans l'ère de la construction du stade. Et là, il faut
quand t'arrives à Claude Puel, il y a une coïncidence, qui n'a rien à voir avec...
c'est à la fin, c'est à la fin, c'est à la fin, c'est en 2011, quand il met Rémy Garde, qui était directeur de l'académie, il le met en tant qu'entraîneur pour reprendre toute un passage de l'académie pour accompagner le club qui n'avait plus d'argent à mettre dans le sportif, à le mettre pour l'accompagner au niveau sportif, parce qu'il n'y avait plus d'argent pour le sportif, c'était tout pour le stade qui devait être livré en 2016. Et là, c'est toute la série des Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Clément Grenier, Maxime Gonalon, Corentin Tolisso, Jordan Ferry, et tout plein de joueurs qui ont là, quelque part, sauvé sportivement le club de l'OL. Donc en fait, le centre de formation a sauvé à de nombreuses reprises, et même samedi soir, à la fin du match, sur les 11 joueurs, 8 de l'académie, encore.
Ah ouais, c'est quand même
c'est énorme, donc l'académie, elle est toujours là, elle a toujours été là pour sauver ou financièrement ou sportivement le club.
Mon cher Edouard, est-ce que tu avais l'info à l'époque 2007 que avant qu'Alain Perrin soit désigné entraîneur de l'OL, qu'un certain Roland Courbis s'était pressenti à Lyon, non?
Il me semble.
Une petite confidence là, que fait coach là.
Ouais, c'est vrai.
Il me semble qu'on s'était parlé.
Ça c'était, ouais, absolument. Ça s'était joué avec Perrin, et d'ailleurs l'adjoint de Perrin, si je me rappelle bien, c'était Galtier.
Christophe Galtier.
Donc et j'avais aussi sympathisé. J'avais été super bien reçu, et notamment par Genesio, qui était un petit peu dans les entraîneurs sortis du club. Après, il y a eu une réflexion. J'avais quelques problèmes extra-sportifs. Et le choix s'est fait. D'ailleurs, je n'aurais pas pu faire mieux, puisque c'était Perrin et Galtier. Et ils ont gagné la Coupe et le championnat. Donc, ils ont fait le doublé. Et pourtant, ils n'ont pas continué.
C'est le dernier titre de champion de France de Lyon, d'ailleurs.
Ben, je pense.
Exactement. C'est ça, 2007-2008.
Ouais, et d'ailleurs, c'est Claude Puel qui est arrivé. Et à partir de l'arrivée de Claude Puel, je pense que c'est une coïncidence. Donc, ben, Lyon n'a plus été champion.
Revenons donc à ce week-end d'hommage, bien sûr. Alors, il s'est quand même rendu un petit peu hommage, Jean-Michel Aulas, hein, dans ses déclarations au trophée UNFP ce dimanche soir. Au stade également devant les supporters et également sur son réseau social préféré Twitter. Il parle de son héritage. Mon héritage ne sera précédé d'aucun autre testament que celui de l'histoire de ce club, qui est plus qu'un club, plus qu'une institution, plus qu'une simple entreprise. À celles et ceux qui me succéderont, nous leur confions un patrimoine du football français qui les engage. J'ai fait le boulot de manière exceptionnelle. Maintenant, prenez le relais.
Dans la période que nous vivons,
il est malin, Aulas, hein.
Excuse-moi de te couper, et que la communication fait partie de cette époque. Je pense qu'en communication, ça serait plutôt un conseil en communication.
Comment a-t-il expliqué cette salve de tweet, mon cher Edouard ? Tiens, écoutons-le et après je te rends la parole. Ouais. Tu l'as rencontré justement après la victoire samedi soir.
En fait, ouais, et juste une petite parenthèse, il nous a envoyé ses tweets, alors pas à nous, hein, mais sur le réseau social, juste avant de venir en zone mixte. Donc il s'est dit, les journalistes,
oui, voilà,
en attendant,
malin,
ils doivent être sur le Twitter et fatalement, ils vont m'attaquer là-dessus. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben, on lui a posé la question. Et nous, on est venu avec notre question. Ben, lui, forcément, il est venu avec sa réponse.
Et on l'écoute.
Ce n'est pas un message négatif, c'est un message positif. Je veux protéger mes 600 salariés qui étaient ici. Aussi l'équipe qui a fait du bon travail. Je peux dire les yeux dans les yeux que tant sur le plan sportif que sur le plan économique, le bilan de l'Olympique Lyonnais est unique. Et on a tout ce qu'il faut pour pouvoir réussir dans le futur. Et je souhaite à Michel Kang, qui est là et qui reprend l'équipe féminine, et puis à John de pouvoir réussir un parcours au moins aussi brillant que celui qu'on a fait, mais je l'espère encore meilleur, et il aura en tout cas toutes les bases que je n'avais pas quand je suis arrivé pour pouvoir réussir un parcours exceptionnel et surtout pour les supporters, gagner la Coupe d'Europe, parce que si on sait la gagner 8 fois chez les féminines, on doit pouvoir la gagner aussi chez les garçons.
Bon coup de pression sur John Textor, hein, et sur Michel Kang également pour la reprise de l'OL féminin.
Bah c'est
bravo Jean-Michel Aulas.
C'est bien joué. De ce
au point. Moins aussi bien rien que ça. Donc alors, moi je suis repreneur, je me dis bon merci Jean-Michel, hein, pour le flambeau, mais sincèrement je te rappellerai quand même, Monsieur Aulas, je vous rappellerai quand même que depuis 11 ans vous n'avez rien gagné, Edouard. Et que c'est aussi partie du bilan des 36 années de Jean-Michel Aulas.
Était,
on l'a dit, l'un des
oublier,
le plus grand président.
Il a passé
sous silence ces 11 années sans tromper aussi.
Si tu veux, la bonne période,
Europe,
elle est au milieu.
Aussi en même temps.
Elle est au milieu de ces 36 ans, la bonne période.
Oui, tout à fait. Ouais. T'as raison, il y a demi-finale de Ligue des Champions. Certes, c'est pas un trophée.
Et d'Europa League aussi. Oui, mais ça fait. Alors après, Non, mais je suis tout à fait d'accord avec, comme je vous l'ai dit, par rapport à nous aussi. Hein, il y a beaucoup de choses. On va pas retenir que le positif. Il y a aussi eu beaucoup de pression. Il y a eu beaucoup de choses. Et d'ailleurs, il nous l'a dit, hein, d'un petit clin d'œil à la fin. Il dit bon, ben voilà, en gros, je vous aimais bien à la fin de ce petit entretien. Et je dis oui, c'était quand même un petit peu tendu. Alors je parlais pas pour moi et pour le groupe RMC, hein, pour tout le monde. Il dit oui, je sais, mais bon, finalement je revenais, donc finalement ça me plaisait de venir vous parler,
d'un petit
peu de guerroyer. Voilà, sûr, et ouais. ça va peut-être un peu nous manquer. Et juste une petite phrase aussi qu'il a dite aux supporters et dans le stade. Il a dit aux supporters, soyez exigeants par rapport à l'avenir. Donc ouais, il aurait pu aussi dire soyez indulgents.
Oui, on sent un peu d'amertume hein, quand même, hein, mon cher.
Ah bah, forcément,
Edouard,
il y en a. Hein. Forcément, il y en a. Il y avait de la retenue. Il ne peut pas tout dire, bien évidemment. Et puis, clairement, la façon dont il a été sorti, voilà.
Prématurément.
L'avenir,
en tout cas,
voilà, prématurément.
Même si la page devait se tourner un jour, quand même.
Exactement,
on savait qu'elle devait se tourner.
Mais normalement, à 3 ans.
Elle pouvait se tourner différemment.
Différemment, dans la forme et de manière plus élégante, bien sûr. Hein. Bon courage à toi, John. John Textor, tu nous écoutes, hein, le flambeau est là, la pression est importante, même s'il récupère un club qui ne gagne plus de trophées, je le rappelle, depuis 11 ans. Parlons de l'entraîneur, parce qu'il incarne peut-être aussi l'avenir à court terme de l'Olympique Lyonnais, c'est Laurent Blanc. Laurent Blanc, que tu as rencontré aussi samedi soir, auteur d'une excellente deuxième partie de saison. On va entrer dans les bilans comptables avec toi, Edouard. Blanc, lui, intéressant, il attend des garanties pour la saison prochaine. Écoutez-le.
Monsieur Textor, comme il vous l'a dit à vous et à moi, veut remettre l'Olympique Lyonnais là où il était. Donc soyons disponibles, voilà, pour ce monsieur, pour ses dirigeants, pour les gens qui vont construire l'équipe et le groupe de l'année prochaine. Donc voilà.
En tout cas, cette deuxième partie de saison vous donne beaucoup d'envie pour l'année prochaine quand on voit la dynamique qu'il y a.
J'ai envie. Je suis retourné sur un banc de touche et notamment à Lyon parce que j'avais envie. L'ère qui s'est terminée a été un succès grandiose, mais il y a eu beaucoup de travail derrière. Vous le savez puisque vous êtes lyonnais. Il y a eu beaucoup de travail, il y a eu des périodes un petit peu moins bonnes. Voilà, c'est de bien travailler, de déterminer les objectifs et de se donner les moyens des objectifs que l'on annonce. C'est ça qui, si je peux me permettre ou préconiser, sans faire de pression à quiconque, dire être clair, net, précis avec tout le monde.
Il faut être clair, savoir où on veut aller, avec quels moyens, quels joueurs, quel effectif. C'est ce que dit Laurent Blanc, hein, de manière très délicate.
Ben oui, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Et c'est sûr que c'est difficile de mieux se positionner que ce que vient de le faire Laurent.
Une position de force, coach, Laurent Blanc ?
Ben pour le moment, oui, même s'il y a un point gris, mais gris foncé dans cette période-là où tout le monde pensait que les deux Olympiques, qui sont maintenant devenus des rivaux, que ça ressemble plus à des ennemis que des rivaux avec l'OM, on s'attendait à une finale Olympique de Marseille, Olympique de Lyon, mais ça a été ni l'un ni l'autre. Ça, c'est quand même le point gris foncé, pas seulement du côté de Marseille, du côté de Lyon aussi.
Le bilan comptable, vas-y ouais. Edouard.
John Textor, justement, pour rebondir sur ta question, je sentais que tu allais me poser celle-là, sur le bilan comptable. Alors, la conférence de presse date du 9 mai dernier de John Textor, mais on était déjà dans cette dynamique, et il notait, John Textor, justement, les points engrangés par l'OL, nouvelle formule avec Laurent Blanc, et c'est là qu'il a insisté en disant, l'année prochaine, il sera là. Donc, si sa première vraie annonce, elle est dénoncée moins d'un mois plus tard, et que débarquait Laurent Blanc... Là, ça voudrait dire, en termes de mensonge, qu'on a affaire quand même à un champion du monde à ce niveau-là.
C'est pas au terme de mensonge, Doudou, excuse-moi. Ça sera au terme d'incompétence. À partir du moment où tu regardes les résultats du côté de Lyon depuis que Laurent Blanc et Franck Passy sont arrivés, tu te dis, j'attends avec impatience de bien travailler sur l'intersaison avec ce gars-là qui va me dire exactement le profil des joueurs qu'il faut. Ensuite, la qualité, ça c'est une chose, et la quantité, c'est encore très important. Là, je ne sais pas si on se rend compte du côté de Lyon, mais il y a quand même un classement extraordinaire qui ne va pas être...
Pénalisant
pour Lyon, c'est la cinquième place et c'est match le jeudi en Coupe Conférence. Rien que quand tu regardes les clubs qui participent à cette Coupe Conférence, vraiment ça te donne surtout l'envie de jouer le prochain match de championnat. Et là, donc Lyon change un petit peu tout à l'intersaison. Tu n'as plus besoin de la même quantité de joueurs. Ça va te faire peut-être prendre, au lieu de prendre 6 joueurs bons, mais pas non plus très bons, mais tu vas peut-être en prendre 3 de très très bons. Et là, à ce moment-là, il y aura un Lyon compétitif et un Laurent Blanc qui pourra démarrer le match à zéro et nous ne pas regarder qu'est-ce qui se passe depuis qu'il a pris les 19 premiers matchs, les 10 derniers, les 15 derniers, le nombre de points, pas de points. On verra la saison de Laurent et de Franck Passy depuis le début. Et quand on voit ce qui s'est passé du côté de Lens en étant le mardi, le mercredi et le jeudi, il faut être bon pour faire ce qu'a fait Lens. Mais aussi, c'est quand même plus reposant de regarder les matchs à la télé, voir les matchs de tes futurs adversaires du week-end. Et là, c'est Lyon qui sera dans cette position. Donc, ça serait décevant, on ne met pas la pression tout de suite, que Lyon ne termine pas dans les 3 premiers la saison prochaine.
Carrément.
Et tu veux que je te dise de quoi dans les 10 premiers ?
Non, moi je pense que dans les 5, dans une reconstruction, un nouveau départ, dans les 5, ça me semble raisonnable. C'est ambitieux, 3 premiers. T'as raison. Mais ça va dépendre de l'état des finances de l'OL, de la force de frappe sur le mercato, de tout ça. Tu vois, c'est ça aussi.
Moi, je te dis, Ce que je pense maintenant, c'est sûr qu'à la fin du mercato, tu me poseras la question, voilà. Je te dirai, Nicolas, non, là, sincèrement,
voilà, c'est ça.
Avec le départ de lui, mais qui n'a pas été remplacé, hein, la saison de la Lacazette, quand je regarde jouer la Lacazette dans ce championnat, c'est époustouflant. Donc, est-ce que la Lacazette va refaire cette saison, la saison prochaine? Je dirais, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas...
Même s'il fait un peu moins, ce serait déjà époustouflant.
Voilà,
hein.
pas évident non plus. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui va se passer au milieu du terrain, où on a quand même besoin d'un ou deux joueurs qui remplacent Guimarães et Paqueta, qui n'ont pas été pour moi remplacés. Donc, c'est avec curiosité qu'on va assister à ce nouveau Lyon.
Alors, juste pour répondre à ta question quand même, Nico, la deuxième phase pour Lyon, elle est quand même à souligner. Alors, c'est vrai qu'on a regardé, hein, Lyon, quand Laurent Blanc reprend l'OL, c'est au mois d'octobre, l'OL est 9e, et là, bon, 7e, voire
6e.
Voire 6e. C'est possible, bon, donc, du coup, ça ne peut pas beaucoup... c'est pas spectaculaire, la remontée. Par contre, ce qui est spectaculaire, je mets tout dans le bon ordre, c'est la deuxième phase. Depuis fin janvier et une victoire à Ajaccio, 37 points en 18 matchs à l'heure actuelle. Donc, ça fait 2 points par match. Et 37 points, c'est autant que Lens sur cette période. Et seul le PSG, parce que mine de rien, le PSG en deuxième phase a fait une bonne série. 38 points. Donc, on est l'OL est sous cette forme actuelle sur la deuxième phase.
Sur la dynamique
Laurent
de Lens.
Blanc, sur la dynamique de Lens et même du PSG. Et voilà. Et donc, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose qui s'est construit. Mais attention, il ne faut pas vendre du rêve, parce qu'avant qu'il y ait 2-3 bons joueurs qui viennent, il faudra faire attention aux joueurs qui partent. Donc, Castello-Luqueba, on sait qu'il y a peut-être des possibilités pour qu'ils partent. On l'a déjà dit ici, un certain nombre de millions d'euros qui rentrent dans les caisses avant le 30 juin. Donc ça veut dire que certains joueurs peuvent être tentés de partir. Et justement, là où Laurent Blanc, pour terminer, disait tout à l'heure, il faut vite régler un certain nombre de problèmes, être sûr, être clair, être précis par rapport à un certain nombre de personnes. Et par rapport à l'avenir, les ambitions. Parce qu'un Maxence Caqueret, par exemple, pourquoi pas un Dejan Lovren, pourquoi pas un Castello-Luqueba ou d'autres, vont se dire, mais l'année prochaine, à quelle sauce on va être mangé? S'il y a de l'ambition, ils vont rester. S'il n'y a pas forcément d'ambition, ils peuvent se dire, bon, ben voilà, s'il y a une offre avant le 30 juin, on peut partir. Donc c'est pour ça que les jours à venir, et c'est pour ça que Laurent Blanc, qui connaît bien les us et coutumes du métier et du football circus, a fait cette sortie très intelligente samedi soir.
Bon, l'été sera chaud cet été à Lyon, bien
même
sûr.
Même la fin du printemps.
Ah oui. La fin du printemps également.
Non, puis bon, c'est évidemment très intéressant, toutes ces stats, savoir le nombre de points qu'il pouvait y avoir avant, après, à partir du moment où est arrivé Laurent. Mais par contre, ce qu'on ne sait pas non plus dans cette saison qui vient de s'écouler, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Laurent Blanc et Franck Fassi auraient été dès la première journée de championnat. Donc on est obligé,
la fiction, ça,
on est obligé de calculer comme on est en train de le faire. C'est une obligation et c'est un constat. Et là, on voit un parcours qui est quand même extraordinaire. Donc c'est un parcours justement de terminer deuxième ou troisième. Mais il y a ce point gris foncé, de cette défaite contre Nantes qui bat personne, sauf Lyon.
En Coupe de France, exactement. Voilà, c'est terminé pour ce podcast After Lyon. Avec Coach Courbis, Edouard Gélon, on sera la semaine prochaine pour revenir bien sur le classement définitif de l'OL. 7e, au pire, au mieux, 6e. Lyon qui va se déplacer à Nice pour terminer son championnat. Monaco, le concurrent pour la 6e place, qui recevra Toulouse. On sera là pour faire le débrief, bien sûr. Merci, coach.
Salut.
Merci, Edouard.
Merci Nico, merci coach.
Merci également à Jérôme Thomas et Daniel Torres. Bye bye.
RMC After Lyon.